Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Éric Sarah, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur et hydrologue. Vous avez créé en janvier 2015 l'Institut Montpellier 1 de l'eau et de l'environnement. Ce pôle sur les sciences de l'eau, en 2019, se transforme en centre international de recherche UNESCO. En 2024, vous avez été élu à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier et vous présidez le comité national français du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO. Une responsabilité importante, mais vous aimez à dire qu'elle ne vous distrait pas de vos activités de chercheur. Alors, nous vous avions reçu l'année dernière à cette antenne pour parler un peu de vous. Et je redonnerai d'ailleurs à la fin de l'émission le podcast, enfin les liens vers ce podcast de pré-enregistrement. Mais vous venez de publier un livre qui s'appelle « Le grand défi de l'eau ». Alors, ce fut aussi un grand défi littéraire, hein, et une bonne raison de vous retrouver, de parler ensemble de l'eau, un sujet que nous ne lâcherons pas de sitôt, à mon avis. Alors, parlons d'abord du livre. Sur Internet, on retrouve une présentation de l'ouvrage qui reprend un de vos dadas, « Ne surtout pas sombrer dans un discours catastrophique et culpabilisant ». Alors, cela vous a-t-il été possible, avec un problème comme celui de l'eau, que finalement, dont on parle presque tous les jours?
Alors effectivement, on parle de l'eau quasiment tous les jours, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il est difficile de rester positif? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit difficile de rester positif. Vous savez, vous citez mon livre, dans ces petites dédicaces qu'on met, on a aussi quelques citations, et je cite Winston Churchill. Winston Churchill disait... grosso modo, c'était à peu près ça. Je suis un optimiste, je ne vois pas à quoi il serait utile d'être autre chose. Et je pars du même principe. En plus, j'ai eu personnellement quelques épreuves qui font que... Et à l'arrivée, oui, je crois qu'il faut être optimiste. Ça n'empêche pas d'être lucide. Il faut être lucide sur les difficultés, sur les paris que nous avons à relever, qui sont devant nous. Mais... les regarder avec un peu d'optimisme, c'est pas ça qui nous empêchera de toute façon d'agir, parce que la seule option que nous ayons, c'est bien l'action.
Alors, bien sûr, les inquiétudes que vous avez soulevées sont réelles. Quand vous comparez effectivement les problèmes de la qualité de l'eau en Europe à celle de la qualité de l'eau dans les autres pays, il est clair que nous avons de la chance.
Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faudrait de temps en temps, c'est faire un pas de côté pour regarder les choses et puis adapter un petit peu nos réactions. Moi, j'ai longtemps vécu et travaillé en Afrique. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie sur ce continent. J'y ai grandi. C'est sans doute d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué quand on est un petit garçon et qu'on voit... qu'on vit dans des pays sahéliens et qu'on comprend quelle est véritablement l'importance de l'eau, quand vous voyez la fête d'une certaine manière, ou en tout cas justement le côté positif que ça entraîne quand arrivent les premières pluies, au mois de juin, alors que les précédentes dataient de septembre de l'année précédente, ça vous marque, vous comprenez que l'eau, c'est vraiment...
La fête de l'eau.
Ben c'est ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc il faut garder cette notion-là, et dans nos pays, on a quand même la chance d'avoir... de l'eau à disposition, on l'a à domicile, elle est contrôlée. De temps en temps, on va effectivement trouver des produits qui n'ont pas à s'y trouver, mais on est capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses. En Afrique, vous avez encore aujourd'hui, en Afrique et dans le reste du monde, mais principalement en Afrique, vous avez encore aujourd'hui 500 000 enfants de moins de 5 ans.
Il y en a un, c'est pareil.
500 000 enfants de moins de 5 ans dans le monde qui meurent chaque année parce qu'ils ont bu une eau qui va leur donner des diarrhées, qui va les déshydrater. Ils meurent en 2 ou 3 jours. Donc, un peu de décence, un petit pas de côté. Regardons les choses tranquillement. Ça ne veut pas dire que tout est acceptable, mais ça veut dire qu'il faut, je crois, réagir de manière proportionnée.
Alors, on peut vous suivre sans aucune difficulté sur cette dimension de la pollution. Enfin, quand on a effectivement connu les progrès en termes d'environnement sur les 30 ou 40 dernières années, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un problème se pose, la recherche, souvent, trouve une solution, même si elle n'est pas complètement satisfaisante. En tout cas, elle répond à la gravité de la situation. Maintenant, concernant la ressource, comment pouvez-vous être optimiste face aux problèmes qui sont posés par le réchauffement climatique et par la ressource? Là, on est dans une autre dimension. Et là, sans doute, la recherche a quand même moins de possibilités que par rapport aux pollutions. Donc,
la recherche, oui, la recherche a des possibilités. Alors, je ne place pas, toute la capacité d'action dans la recherche, la technologie et l'innovation. Mais à l'inverse, je suis persuadé que ça nous apportera une partie importante de la solution. Mais ça ne fera pas tout.
Donc vous n'êtes pas technosolutionniste.
Le fameux qualificatif de technosolutionniste. Non, je ne pense pas être technosolutionniste. Et je pense d'ailleurs que c'est souvent un raccourci qui est utilisé dans des débats, précisément par des gens qui ne veulent pas débattre. Vous savez, Alain Aspect disait « on ne sauvera pas la planète contre la science, mais avec la science ». Mais je pense que c'est la même chose. On ne sauvera pas l'eau contre la science, mais avec la science. Donc on en a besoin. Mais ça ne suffira pas. À côté de ça, il va falloir notamment qu'on ait probablement une approche culturelle
et sociale.
Et sociale autour de l'eau qui soit différente de ce qu'elle a été ces dernières décennies. Et ça, c'est essentiel. Donc il faut changer notre regard sur l'eau, il faut lui redonner la place qu'elle mérite dans nos sociétés.
Alors, qu'est-ce que vous proposez alors par rapport à ça? Le premier changement que nous aurions à avoir, à faire
C'est déjà travailler sur la prise de conscience. Avant l'émission, nous évoquions tous les deux la convention avec les lycéens dont je reviens aux États-Unis et que j'ai trouvé extraordinaire dans ce contexte-là en matière de sensibilisation autour du sujet de l'eau. Mais il y a un travail d'éducation. Il faut reprendre, je dirais, à la base le fait que l'eau est un élément constitutif essentiel de nos sociétés.
Et c'est pour ça que vous avez commencé à travailler à Montpellier, dès que vous avez eu la responsabilité, finalement, UNESCO, vous avez commencé à travailler avec les lycées.
Alors, avec les lycées...
Enfin, avec les jeunes.
Avec les jeunes, d'une manière générale, avec les étudiants, avec le Water for Future Hackathon, mais également avec les lycées, les collèges, et même les petits du primaire. On a mis en place un programme ici à Montpellier qui s'appelle Plouf, qui permet aux élèves de classe primaire de venir travailler sur des petits ateliers qui leur font prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc il y a toute cette dimension-là, elle est absolument essentielle. Il faut redonner dans la société sa place à l'eau. Ça veut dire qu'il faut redonner dans l'éducation, dans l'instruction, dans les écoles, les collèges et les lycées, il faut redonner à l'eau toute sa place également, c'est absolument incontournable.
Alors, depuis longtemps, on dit par exemple, laisse pas couler l'eau quand tu te laves les dents. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller au-delà?
Alors, c'est sans doute pas suffisant, évidemment, mais pour autant, il faut pas le négliger. Ça fait partie d'un ensemble. Il faut éduquer au respect de l'eau, il faut sensibiliser à ce qu'effectivement on a devant nous des problèmes de ressources qu'il va falloir gérer. Donc ça part de là, mais derrière c'est aussi...
Et comment vous faites ça alors sans effrayer, sans anxiété,
sans discours anxiogène?
Oui, sans discours anxiogène. Ben, par rapport à un petit par exemple ou par rapport à un jeune?
Ben justement, je pense qu'il faut expliquer... Il faut expliquer ce qui se passe véritablement, c'est-à-dire en quoi le changement vient modifier ce qu'on connaissait. Et puis, à partir de là, il faut expliquer aussi qu'on a des capacités d'action, de mobilisation, des capacités de prise de conscience, des capacités d'arbitrage, donc des capacités de discussion, des recherches de consensus, de compromis. Et puis également, cette dimension qu'on évoquait tout à l'heure, qui est une dimension de recherche, de technologie,
donc,
d'innovation.
Donc très rapidement, ils comprennent qu'il y a un lien très fort entre science et société.
Ah, je pense qu'ils le comprennent en tout cas. Oui, oui. Enfin, moi, c'est la perception que j'en ai quand je discute avec des élèves de ces établissements. Ils se rendent compte, effectivement, ils comprennent les difficultés. D'abord parce qu'ils en entendent parler. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on entend parler de l'eau quasiment tous les jours. Donc, ils l'entendent aussi, ce discours-là. Et à partir de là, ils comprennent qu'il y a effectivement des changements importants qui sont en train de s'opérer. Et donc, ils comprennent aussi la nécessité d'avoir une action pour s'adapter. Je crois que le mot-clé, il est là. C'est de l'adaptation dont on a besoin.
Alors, justement, quel type d'adaptation vous leur proposez ?
On leur propose de... Encore une fois, alors, vous savez, finalement, c'est entre guillemets...
Ou alors eux, qu'est-ce qu'ils proposent d'eux-mêmes ?
Oui, alors ils vont proposer, effectivement. Là où finalement...
Parce que si on se cantonne encore au constat, si on se cantonne encore à l'explication et à la connaissance, on a fait beaucoup en ce sens.
On a déjà fait beaucoup parce
dans ces derniers temps. Mais on sent aujourd'hui que, justement, il faut peut-être aller au-delà.
Oui, alors il faut sans doute aller au-delà, mais ça reste le socle sur lequel on peut se positionner pour travailler et aller au-delà. Donc derrière, ça veut dire qu'effectivement, on va changer beaucoup de choses dans nos activités, dans notre organisation. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il faille couper son robinet quand on se brosse les dents. Ça, c'est effectivement l'exemple numéro un qu'on peut souligner pour expliquer qu'à titre personnel, dans nos usages domestiques de l'eau, on a toujours quelque part la possibilité de moins consommer d'eau. Mais après, vous savez, grosso modo, c'est 10-15% de l'usage de l'eau. Donc l'essentiel ne
vient... J'allais vous dire, voilà, c'est pas de là que ça viendra. Agriculteurs, les vignerons, c'est tous ceux qui ont besoin de l'eau au quotidien.
Mais ce sont donc nos activités par ailleurs, et notamment nos activités économiques. Donc là, il y a un travail à faire. Mais ce travail, il se fait aujourd'hui. Bon, moi, j'ai l'occasion...
Trouvez qu'il se fait bien ?
En tout cas, il se fait. et j'ai l'occasion de... J'ai été pendant des années vice-président d'un pôle de compétitivité sur l'eau. Je suis toujours membre de son conseil d'administration. J'ai donc l'occasion de discuter avec des chefs d'entreprise. Et il y a aujourd'hui, je crois, une vraie prise de conscience dans le monde de l'entreprise, de l'industrie. Il y a quelques jours de ça, j'étais allé faire une conférence devant des chefs d'entreprise. Il y a une prise de conscience. Alors vous me direz peut-être que cette prise de conscience, il a fallu la provoquer. Peu importe. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Et ce que je constate, c'est que de plus en plus, chez les chefs d'entreprise, chez les agriculteurs, alors vous aurez toujours, partout, dans tous les secteurs d'activité, des gens réfractaires à tout changement, à tout... voilà. Mais le constat que je fais, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui sont conscients de ça. De toute façon, arrivent des moments où ils ont des restrictions d'eau, etc. Donc, ils prennent conscience du changement. Et à partir de là, vous avez des gens qui se positionnent comme étant des acteurs du changement. Et c'est ça qui est important.
Oui, mais alors, ces acteurs du changement qui finissent par accepter de l'être au bout de longues séances, certainement, de prise de conscience et d'information, se heurtent finalement à des administrations... J'ai été étonnée, par exemple, en allant à l'Antigone des associations, en allant sur le stand de GEMAPI, et de poser la question, une question que je pose beaucoup en ce moment, savoir où en est la Réyoute. D'ailleurs, je vais vous la poser aussi. Et GEMAPI me répond, oh, ben non, la Réyoute, on ne peut pas pour l'instant, parce que si on prive l'eau, je n'ai même rien compris à ce qu'il me racontait, si on prive... En quoi la Réyoute priverait l'eau de ses sources habituelles ?
Non, je crois pas. Ça ne va pas aussi vite que ce qu'on aurait pu imaginer.
Mais alors, ça ne va pas aussi vite qu'on puisse imaginer. Alors, au début, on avait un problème sanitaire. Bon, alors, ça, on commence à le résoudre un peu.
Enfin, disons qu'on avait un problème sanitaire parce qu'en France, on veut bien se rajouter des problèmes sanitaires par rapport à ce que font nos voisins. D'accord ? Si vous voulez, moi, il y a quelque chose que je trouve relativement incompréhensible. C'est-à-dire qu'il existe une directive cadre européenne sur l'eau. La France était autour de la table pour la négocier, la discuter et à un moment donné pour la signer comme l'ont signé tous nos partenaires européens. Mais une fois que ce document-là est signé, nous, évidemment, il faut qu'on la surtranspose dans notre propre réglementation. Alors, je ne suis pas certain du tout que nos amis italiens ou espagnols soient des fous dangereux. Ils utilisent la directive cadre européenne que nous avons négociée et signée nous aussi. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on peut regarder ce que font les autres, être peut-être un peu moins prétentieux, regarder ce que font les autres et utiliser telle ressource alternative dans les mêmes conditions.
On en profite pour redonner deux chiffres. Italie, Espagne, par rapport à la France, par exemple.
Bah, écoutez,
et puis la réutilisation, des eaux usées, on ne l'a pas retraduit.
Voilà.
Donc,
réutilisation des eaux usées traitées. Italie, vous êtes entre 8 et 10%. Espagne, vous êtes aux alentours de 15%. Et nous, on est à moins de 1%. Et encore une fois, j'insiste, c'est régi par la même directive cadre européenne sur l'eau que nous avons négociée et signée.
Mais moi, on me répond, mais c'est parce que la France n'a jamais eu à s'en préoccuper, parce que la France ne manquait pas d'eau. Donc, elle ne regardait pas par là. Donc maintenant, elle regarde par là, et pourtant, elle n'avance pas.
Ben oui, elle regarde par là, mais parce que, comme dans de nombreux autres cas de figure, nous avons trouvé le moyen de nous doter d'une réglementation beaucoup plus stricte et contraignante que précédemment. Ça fait des années qu'on a des entreprises qui sont capables de mettre en place de la réut dans de très bonnes conditions. Ça fait des années qu'on a des entreprises qui développent ce genre de produits ailleurs, dans leur marché, à l'export. Donc on sait le faire. Donc moi et beaucoup d'autres, nous espérions vraiment que lorsque le plan national eau a été mis en œuvre fin mars 2023...
Oui, il y a deux ans, vous étiez plein d'espoir.
Et puis qu'est-ce qu'on constate? Que les choses n'avancent pratiquement pas.
Alors, on vient d'évoquer un des freins qui était la dimension sanitaire, on vient de l'évoquer, et puis maintenant donc apparaît ce problème de réalimentation des sources, des...
Pas vraiment avec la réut. En fait, il y a deux choses qui sont à prendre en compte. C'est cette qualité effectivement sanitaire, mais c'est un faux problème. On sait le traiter. On a une réglementation qui existe. Encore une fois, il y a une réglementation européenne que nous avons négociée. J'insiste vraiment là-dessus. Nous l'avons négociée, cette directive cadre. Nous faisions partie des gens autour de la table qui l'ont négociée et qui sont arrivés à un compromis signé par tout le monde. Donc à un moment donné, l'autre aspect qui va avec la réut et qui, dans certains endroits, peut limiter l'usage de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est quand vous avez, par exemple en période estivale, un débit minimum dans un cours d'eau qui va être constitué essentiellement par ce qui sort de la station de traitement des eaux. Et là, c'est vrai que si vous prenez une quantité importante de cette eau pour la réutiliser, vous n'allez pas la laisser couler et donc vous allez perturber les écosystèmes en aval.
Mais souvent, ce n'est pas au même moment.
Comment ça, c'est pas au même moment?
Le printemps quand même, surtout au printemps.
Oui, mais je vous parle principalement des périodes estivales.
Estivales, oui.
Voilà. Et c'est là où on a besoin de beaucoup d'eau
et les
écosystèmes ont aussi besoin d'eau. Voilà, donc voilà. Et c'est pour ça qu'en France, on aura sans doute plutôt tendance à développer de la réut dans des zones plutôt littorales, dans lesquelles l'eau qui sortait des stations était plutôt ensuite rejetée en mer. Et là, cette eau-là, on peut la récupérer et la réutiliser, effectivement. C'est plutôt comme ça que c'est prévu.
Donc, on se redonne des délais qui sont importants.
Alors, de toute manière, ça ne va pas se mettre en œuvre sur un claquement de doigts. Parce qu'il faut effectivement analyser les besoins, il faut mettre en place les traitements supplémentaires liés à ces besoins, et ce ne seront pas forcément les mêmes en fonction des usages qu'on pourra faire de cette réhutte. Et puis derrière, il va falloir amener l'eau sur place, et donc vous allez devoir mettre en place un système de canalisation avec des chantiers. C'est coûteux. Mais c'est un investissement qui est un véritable investissement nécessaire, productif. Donc on fait tellement d'investissements qui
ne
servent à rien parfois. Là, ce sont des investissements intéressants, importants. Il faut pouvoir les faire de manière à ce que, dans la durée, cette ressource alternative puisse correspondre aux besoins.
Donc on vient de répondre là à un problème de réponse technique, scientifique, sociétale,
et
économique au problème de la ressource.
Absolument.
On va avoir bientôt sur Montpellier, pour la deuxième édition, la Biennale Euro-Africa. Vous étiez à la première, hein, vous aviez été un de ceux qui avaient lancé la première. Donc la deuxième va conforter ce côté partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Hein. Et vous allez y participer encore, je suppose.
Oui.
Et quels sont donc, à votre avis, les points les plus importants, enfin, d'échange Nord-Sud?
Alors, en tout cas,
on reste dans le domaine de l'eau, bien sûr,
domaine,
parce qu'autrement,
voilà.
On va être...
Il y a de très nombreux domaines,
y compris,
ce qui fait, comme lors de l'édition précédente, les deux premières journées, c'est-à-dire des journées d'échange, qui cette fois-ci, notamment dans le domaine scientifique, sont ouverts à plus de disciplines que simplement la question de l'eau. Puisqu'il y a la biodiversité, il y a l'agriculture, il y a etc.
Donc la multidisciplinarité, par contre,
oui.
Elle a évolué et elle a progressé et,
oui.
Et on le sent très nettement.
Absolument.
Surtout à Montpellier.
Surtout à Montpellier, je crois que c'est vrai. Moi, j'en suis très heureux parce que le centre qu'on a construit, on l'a basé principalement sur cette capacité à rassembler des scientifiques de compétences et de formations différentes.
Alors, j'ai été très surprise de voir que la multidisciplinarité, finalement, apparaissait très tard. Elle apparaît dans le vocabulaire courant, enfin, dans le domaine courant, elle apparaît simplement dans les années 60. Donc, c'est très récent, finalement.
Oui, c'est assez récent, mais...
Je ne parle pas des...
Non, mais je crois, en fait, si vous voulez, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est toujours la vitesse à laquelle on voudrait que les choses se passent, et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est... il faut le temps que les esprits se forment, il faut le temps que les choses se mettent en œuvre, il faut le temps qu'on en démontre l'intérêt à ceux qui ensuite vont pouvoir, par exemple, financer des projets, etc. Donc il y a ce travail-là, il est essentiel et il s'inscrit dans un temps souvent long. Mais il faut être persévérant et puis on avance et puis on finit par y arriver. Et là, en fait, nous, de notre côté, ce que nous avons souhaité mettre en œuvre cette année, c'est une réflexion sur la notion de réseau. Les réseaux partenariales, parce que ça nous semblait absolument essentiel d'aller dans cette direction-là. On construit bien... Ça va un petit peu dans le sens, finalement. C'est la même philosophie que... La pluri et l'interdisciplinarité, c'est rassembler les gens. Et c'est ce qu'on va faire là, à différents niveaux. On va mettre en évidence l'importance de réseaux scientifiques de haut niveau, à travers des sociétés savantes, à travers des associations internationales, à travers des grands programmes que porte l'UNESCO et qui sont rassembleurs de scientifiques de nombreux pays.
Est-ce que vous avez un programme particulier dont vous voudriez nous parler, par exemple, entre l'Afrique et l'Europe, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose qui vient du sud vers le nord, par exemple.
En fait, si vous voulez, moi, ce que je constate, c'est que si je reprends là un petit peu ma casquette de président du comité français du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, le PHI, le programme hydrologique intergouvernemental, a lui-même un certain nombre de grands programmes qui, pour certains, existent depuis une cinquantaine d'années. Et ces grands programmes, ce sont des programmes qui sont précisément très fédérateurs. Ici, à Montpellier, dans le cadre du Centre UNESCO de Montpellier, l'UNESCO nous a demandé d'en prendre un en charge, qui s'appelle Friend Water. Et l'idée, c'est de... Alors, c'est un grand programme qui doit concerner plus de 160 pays dans le monde, qui sont répartis en grands groupes régionaux. Et l'idée, c'est de construire des communautés régionales, en l'occurrence d'hydrologues, mais on va parler là d'hydrologues au sens large, et de voir que ces gens, tous ces gens rassemblés, puissent travailler ensemble, échanger des données, échanger de la méthodologie, échanger des capacités d'analyse, comparer des situations qui relèveraient entre guillemets de la même problématique, mais qui va être problématique qui va être abordée de manière différente en fonction du climat, des problématiques sociales, sociétales, économiques, culturelles. On revient à la dimension culturelle que j'évoquais au tout début. Et ce type de programme-là, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui permet de construire des communautés scientifiques et de les construire autour d'approches qui vont se compléter.
Alors, vous en êtes en train de... Vous en êtes au moment où on construit encore ces communautés scientifiques. Si je compare avec un autre domaine que je connais bien, qui est celui du climat, on estime, grâce aux efforts du GIEC, que ces communautés scientifiques, maintenant, sont constituées et on entre dans une deuxième phase, qui est celle notamment de Saclay, qui essaie de joindre société et scientifique, c'est-à-dire ce dialogue. Donc, cette phase, vous pensez que vous allez la commencer à quel moment ? Alors, les médias, ils jouent un rôle important. C'est pour ça que, en tant que nous n'avons qu'une terre, nous avons besoin aussi de savoir quand ces messages vont pouvoir être diffusés.
En fait, vous savez, l'eau, c'est tellement transversal que le lien entre la science et la société dans le domaine de l'eau, il existe déjà. L'eau, c'est notre quotidien. Dans toutes nos activités, à tout moment de la journée, on est confronté à l'eau ou à quelque chose qui a utilisé de l'eau.
Donc vous pensez que ça se fait en même temps ?
Pour nous, oui. Dans notre domaine, en tout cas, je pense vraiment que ça se fait en même temps. Et d'ailleurs, dans notre domaine, il y a des scientifiques qui sont plutôt... du côté des sciences humaines et des sciences sociales. Et précisément, c'est par exemple ce que nous faisons ici à Montpellier, dans le cadre du centre UNESCO. L'idée, c'est d'avoir des programmes de recherche financés par le centre qui vont rassembler des gens de compétences diverses. Et donc, on va avoir des hydrologues, des hydrogéologues, des chimistes qui vont travailler avec des économistes, des anthropologues, etc.
Pourquoi faire ?
Pour arriver, d'une part, à mieux comprendre la réalité des choses, analyser dans son entièreté comment le problème est posé, et donc à partir de là, être en situation de proposer des solutions qui intègrent non seulement la dimension technique, mais aussi cette dimension sociale, sociétale qui est essentielle.
Alors, on va arriver bientôt à la fin de cette émission, on a encore des milliers de choses à se dire, mais il va y avoir bientôt le congrès mondial de l'UICN à Abu Dhabi, je ne sais pas si vous y allez.
Alors, le centre, en tout cas, n'y sera pas.
N'y sera pas, mais vous allez peut-être y aller aussi. En tout cas, il y a une dimension qui est excessivement intéressante sur laquelle ils travaillent, sur le plan de l'eau. C'est ce qu'ils appellent la paix bleue, enfin la nouvelle diplomatie de l'eau pour éviter des guerres. Alors, on apprend que 400, on a 400 bassins aujourd'hui transfrontaliers, donc d'une eau partagée entre deux États au minimum, ça peut même être trois parfois,
même plus.
Et là, il va y avoir donc un travail sur cette nouvelle diplomatie de l'eau. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose d'important, justement, parmi les solutions ? C'est peut-être... Est-ce que c'est scientifique, ça ?
Mais c'est absolument scientifique. Absolument. Oui, deux, trois, j'ai en tête, parce qu'encore une fois, je connais bien le continent africain, le bassin du Niger. C'est 9 pays riverains du bassin du Niger. Et il existe l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, depuis le début des années 60. Et les pays sont obligés de se concerter. En fait, il faut être conscient de ça. Alors oui, il y a des tensions. Et vous avez rappelé qu'il y a un grand nombre... Il y a plusieurs centaines d'endroits dans le monde où l'eau peut être une vraie source de conflit. On le voit avec le barrage,
avec le Nil,
avec le barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu.
Bien sûr. Hein,
donc ça, c'est vraiment le cas. Mais oui, alors d'abord, c'est de la science, oui, parce qu'il faut des données qui soient des données numériques, chiffrées, etc., pour ensuite poser le problème comme il convient, et derrière, c'est de l'économie, c'est des politiques publiques, etc. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si dans certains cas, c'est effectivement un souci ou une crainte de voir quelque chose dégénérer en conflit, parfois l'eau, c'est aussi justement le moyen de rassembler les gens et de faire en sorte
que
ça se passe.
C'est sans doute leur objectif, puisqu'ils font il y a tout un atelier et un travail qui se mène autour d'une oued, je ne sais pas, on dit un oued ou une oued, je ne sais pas,
un oued,
entre l'Algérie et la Tunisie, donc deux pays qui peuvent effectivement avoir des bonnes raisons de s'affronter et qui...
Je vous donnerai un exemple. Je voudrais un exemple qui est celui de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur de la vallée du Sénégal. Voilà, l'OMVS, le Sénégal, dans les années 80, il y a eu un conflit armé entre la Mauritanie et le Sénégal. Et à un moment donné, je pense que les gens se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a eu la volonté de comprendre que l'eau était véritablement quelque chose qui devait rassembler. Et s'est créé l'OMVS, donc Organisation de la mise en valeur de la vallée du Sénégal, qui rassemble aujourd'hui la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, qui ne sont pas pour autant tous devenus les meilleurs amis du monde, mais qui ont compris qu'autour d'une ressource qui est une ressource majeure pour leur population, leur économie, leurs activités, ils avaient besoin de discuter. Et l'OMVS, ça marche.
Bon, eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, Eric, on va se quitter, même si j'aurais aimé quand même qu'on parle de votre récent voyage aux États-Unis, mais on aura l'occasion d'en reparler d'une autre manière. Voilà. En tout cas, merci à vous.
Merci
bon
beaucoup.
Week-end à tous et à bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.